Bon début de semaine tout le monde. Exclusivement, nous sommes live en ce matin dans toute liberté avec Karim El Ayoubi. Notre cher Karim était aux urgences hier, fait ce qu'il faisait le meilleur. Écoute, pas l'en blâmer aucunement. Aujourd'hui, on fait un petit sujet short and sweet, mais je pense qu'il va quand même nous intéresser. Crise d'opioïdes, on en a déjà parlé un peu. Ben, semble-t-il qu'il y a une drogue en particulier, une nouvelle, en tout cas, un peu spéciale, qui serait distribuée illégalement dans les rues de Montréal. On parle d'une petite pilule qui serait jusqu'à 25 fois plus puissante que le fentanyl. Ça laisse présager quelque chose d'assez spécial. Fait qu'on en parle ce matin dans En toute liberté. Salut Karim.
Salut Joey.
Yes, merci d'être là. Hey, écoute, je partage tout de suite. En fait, c'est ce que tu m'avais envoyé, un article de TVA du 6 avril. Donc, c'est vendredi, je crois, ou samedi. C'est ça, une drogue 25 fois plus puissante que le fentanyl inquiète la santé publique. Bien évidemment, il y a un reportage d'environ 2 minutes assez intéressant avec mon filion et tout ça. C'est ça, c'est ce fameux médicament-là, c'est le dilodide ou l'hydromorphone, semble-t-il. Puis en fait, c'est que ça varie. Il dit jusqu'à, c'est bien spécifié, c'est que jusqu'à 25 fois. T'sais, c'est vraiment un peu à géométrie variable pour ce qui est des doses. Bien évidemment, quand c'est du contrefait, il ne faut pas s'attendre à autre chose que ça. Mais c'est spécial, parce que là, supposément que tu prends ça et t'es quasiment en overdose déjà tout de suite, là, c'est capoté, là.
Oui, ben exactement. Ici, il y a une petite erreur dans cet article-là, juste mentionner, c'est que, ben, de ce que j'ai compris, puis ça n'a pas été bien, si bien expliqué que ça, là, j'ai pris cet article-là parce que pour les auditeurs, c'est un article qui est quand même super court à lire, il est en français, mais le National Post a publié là-dessus récemment, également le Globe and Mail a publié là-dessus, ils ont le même problème aux États-Unis. Le Wall Street Journal a publié là-dessus également. Donc, il y a plusieurs références. Et ce qui arrive, c'est que lorsqu'on parle là, du dilodide, bon, c'est tout dans la famille des narcotiques. On va essayer de démêler ça ensemble. Le dilodide, c'est pas 25 fois plus puissant que le fentanyl. Je vais juste vous expliquer. On va faire un ordre de grandeur. C'est tout des narcotiques. Ça fait partie de la famille des narcotiques. Si on prend le standard que tout le monde connaît, la population générale connaît tous, la bonne vieille morphine, OK? La plupart des gens qui ont déjà eu une chirurgie, que ce soit une chirurgie abdominale, orthopédique, peu importe, qui se sont déjà cassé une jambe ou qui ont fait une pierre au rein, ils ont déjà eu de la morphine, OK? Ça, on connaît tous. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Ce qu'on appelle le dilodide, OK? Le dilodide de son nom générique hydromorphone, ce qu'on parle dans l'article, c'est 5 fois plus puissant que la morphine.
Okay.
Donc, c'est vous multipliez par 5 la force. Lorsqu'on parle du fentanyl, c'est 100 fois, c'est environ 100 fois plus puissant que la morphine.
Okay?
Donc, environ 100 fois plus puissant que la morphine. Donc, on a la morphine, on a le dilodide, morphine, 5 fois plus puissant le dilodide et 100 fois plus puissant que la morphine. Le fentanyl. Le fentanyl, on peut le donner à l'urgence, on le donne souvent quand on fait des anesthésies aux patients ou des patients qui ont beaucoup de douleurs, on le donne souvent en dose intraveineuse. La différence, c'est qu'on ne le donne pas en milligrammes, on le donne en microgrammes. Vous comprenez? Si au lieu de donner 50 microgrammes, vous donnez 50 milligrammes, c'est fini, c'est la mort.
Non, c'est ça.
Donc, exactement, 1 milligramme égale 1000 microgrammes. Donc, c'est pour ça qu'on ne le donne pas dans la même unité de mesure. Maintenant, ce que je crois comprendre dans l'article, puis en regardant quand on fouille dans d'autres articles, c'est que les pushers vendraient une drogue qui s'appellerait, ils l'appelleraient faussement dilodide ou hydromorphone, mais ils la couperaient avec de la cochonnerie. OK?
Sans surprise.
Oui, c'est ça, exactement. Et ça fait en sorte que ce n'est pas du vrai dilodide. C'est quelque chose qui serait 25 fois plus puissant que du fentanyl. Donc, 25 fois plus. Donc, le fentanyl étant 100 fois plus puissant que la morphine, cette drogue de synthèse serait 25 fois plus puissante que le fentanyl lui-même.
Ben, quasiment à quoi? 2500 fois plus puissant que le dilodide original, quasiment? En tout cas, je ne suis pas
expert
en mathématiques. Là, ceux qui ont un meilleur calcul mental que moi vont trouver le chiffre. Là.
Le dilodide est 5 fois plus puissant que la morphine. celui-ci, le fentanyl, est 100 fois plus puissant est 100 fois plus puissant que la morphine, et celui-là serait 25 fois plus puissant que le fentanyl. Donc, t'es pas à 1000 fois plus.
Non, c'est ça.
Ici, mais quand même, si tu regardes le dilodide, ce dernier, c'est-à-dire 1 mg de morphine égale 5 mg, OK? Ça veut dire 100 divisé par... Ça veut dire 100 divisé il serait 20 fois plus puissant que le dilodide.
Mais juste pour ce, juste
donc,
pour
20 fois plus puissant que le dilodide, le fentanyl, 20 fois plus puissant que le dilodide. Ça veut dire 20 fois plus puissant que le dilodide. Si tu le remultiplies par 20, par 25, ça veut dire que tu es 450 fois plus puissant.
OK. Juste pour peut-être clarifier un peu, en fait, le dilodide, à l'origine, ça sert à quoi en termes en médecine générale? Parce qu'on entend que c'est pas pour se droguer. Est-ce que c'est vraiment un peu comme un genre de comprimé, comme tu l'as dit? Là, tu le compares à la morphine. C'est-tu vraiment pour avoir le même effet en médecine relié à ça, ou ça sert à d'autres choses, simplement?
Là, je vois quelqu'un qui dit que ça devrait être interdit, des médicaments comme ça. Ben non, c'est parce que si vous avez une chirurgie de la colonne vertébrale et on vous met des vis dans la colonne vertébrale, si on interdit ce médicament-là, vous allez souffrir le martyr. Je peux vous garantir que du Tylenol puis du Advil, ce ne sera pas suffisant. Vous allez trouver qu'on est des barbares, là. Donc, mais lorsque vous le prenez, par exemple, à l'hôpital, sous supervision, avec des doses bien administrées, ou par exemple, il y a des gens qui sont en soins palliatifs qui en ont besoin. Par exemple, vous avez des métastases osseuses, vous avez des métastases un petit peu partout à cause d'un cancer généralisé. Les narcotiques peuvent être des médicaments qui vous permettent de vivre vos derniers moments en dignité après des chirurgies, ces choses-là. Donc, non, il ne faut pas que ce soit interdit, mais il faut que ce soit interdit de vendre par des pushers, ce qui l'est déjà. Non, sauf que le contrôle est difficile à faire. Là, on a une crise d'opioïdes en ce moment. Mais... l'autre, pour répondre à ta question, Joey, oui, s'il te plaît, ta question, c'était à quoi ça sert ces médicaments-là? Pourquoi du dilodide au lieu de la morphine? Très bonne question. C'est que, je vais te donner un exemple. Disons que tu es en soins palliatifs, par exemple, ça fait longtemps que tu prends de la morphine. Ton système s'habitue beaucoup à la morphine. Donc
ça a pu effet après un bout.
Donc tu switches de molécules. C'est juste qu'au lieu de donner, par exemple, faut bien que tu fasses... Ta conversion, par exemple, parce que si tu donnes 5 mg, mettons que tu es habitué au patient de lui donner 10 mg de morphine, par exemple, tu ne peux pas lui donner 10 mg de dilodide. Il va falloir que tu divises par 5, que tu lui donnes 2 mg de morphine. Et même, on suggère d'en donner un au départ parce que tu n'as pas la même accoutumance que tu avais à la morphine. Donc ça peut être intéressant. Il y a des gens parfois qui vont avoir une réaction, une intolérance. Tu vas avoir une intolérance à la morphine, tu prends la molécule, les patients vomissent, ils ont une intolérance à la molécule elle-même, tu vas switcher avec du dilodide ou tu peux switcher avec, par exemple, du Supedol, qui est un autre narcotique, ou avec du Tramadol, qui est un autre narcotique. Le fentanyl, quand on le donne, c'est pour des patients où est-ce qu'on est rendu avec c'est beaucoup des patients en soins palliatifs qu'on va donner du fentanyl. On le donne sous forme de timbre en microgramme le plus souvent. C'est des patients, par exemple, qui ont des cancers avec des métastases généralisées, surtout des métastases osseuses, qui souffrent le martyr, et on est rendu à des doses de cheval, de dilodide, de morphine, ça fonctionne pas. On a déjà donné la morphine, on a switché au dilodide, maintenant on est rendu à donner du fentanyl, mais on le donne sous supervision, et même parfois ils vont partir à la maison avec ça, mais ils ont été ajustés à l'hôpital avant. Les doses ont été ajustées, puis on connaît la dose sécuritaire pour le patient. Donc, ça, c'est ça l'intérêt d'avoir un éventail de molécules qui est plus grand.
Ben oui, c'est fort pratique. Puis, pour répondre au commentaire de tantôt, dites-vous que la majorité des soins, des médecines et des médicaments qu'on a, dites-vous que tout ce qui est à forte dose n'est généralement vous tue. Fait que, disons que tout est une question de dosage dans ce cas-ci. Fait que c'est pas le temps de faire across the board puis tout bannir ça, parce que je vous dis que pas mal tout ce qu'on a dans nos pharmacies peut vous tuer d'une manière ou d'une autre si vous en prenez trop.
Très, très bon point. Hein. T'as des médicaments qui peuvent te donner, je veux dire, une arythmie cardiaque très rapide. T'as des médicaments. Mais c'est vrai que c'est des médicaments qui sont très forts. Puis je comprends le point de dire, quand t'es rendu à quelque chose qui est 100 fois plus fort que de la morphine, c'est vraiment utilisé avec parcimonie. On en donne pour faire dans des anesthésies générales, parfois. On en donne à l'urgence lorsqu'on veut endormir un patient. Mais tu sais, c'est supervisé, là, je veux dire.
Ah oui.
Mais c'est rare qu'on va donner du fentanyl à la maison, par exemple. C'est réservé. En tout cas, moi, dans ma pratique, c'est uniquement des patients qui sont en soins palliatifs, là, qui vont avoir ce type de médicament-là. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose, une cochonnerie dans la rue qui se vendrait au nom de Dilaudid. C'est pour ça que c'est très trompeur, hein? Parce que les narcodépendants savent tout ça. Tout ce que je viens de te dire, là, les narcodépendants, ils savent tout ça. Ils savent que du Dilaudid, c'est 5 fois plus fort que de la morphine. Puis eux autres, ils se sont fait prescrire du Dilaudid. Souvent, les narcodépendants, puis la plupart, là, c'est vraiment pas des mauvaises personnes. C'est des gens que souvent, ça va partir d'une douleur chronique, par exemple, un hernie discale au dos qui n'a pas été soigné. Ils se sont fait prescrire des doses de narcotiques, puis là, ça ne fonctionnait pas. Ils s'en ont fait prescrire plus, puis ils ont développé une dépendance, donc plus on avait les doses se sont crinquées. Des fois, les médecins, on en a trop prescrit également. Puis, ils sont rendus qu'à un moment donné, les doses sont rendues tellement élevées que le médecin est plus à l'aise, il n'en prescrit plus, ils vont s'en acheter dans la rue. Mais eux, ils le savent très bien, leur dose de Dilaudid que ça prend. Le problème, c'est que le pusher, s'il dit « je te vends 8 mg de Dilaudid ou 10 mg de Dilaudid », lui, le patient, il ne sait pas que ce n'est pas 10 mg, qu'en réalité, c'est comme s'il prenait 25 multiplié par 8 mg, tu comprends? Donc, autrement, lui va prendre cette dose-là parce que ça a été coupé avec une autre molécule qui est 25 fois plus forte que le fentanyl. Ça veut dire qu'il s'attend à prendre un 10 mg de Dilaudid, le patient. Puis, finalement, au lieu de prendre 10 mg, il va prendre 250 mg. Donc, qu'est-ce que ça va arriver? Son corps n'est pas habitué à ça. Il va faire un arrêt cardio-respiratoire. Donc, tu vas le retrouver mort, autrement dit. À moins que tu aies quelqu'un juste à côté de lui qui ait une drogue qu'on va parler, qui s'appelle de la naloxone. C'est quoi de la naloxone, exactement? Pour ça, le but ici, on ne réglera pas le problème de la crise des opioïdes. Il y a à peu près personne sur la planète qui était capable de la régler. Même des pays ultra coercitifs qui ont la peine de mort pour la consommation de drogue.
La fameuse war on drugs, là.
Malheureusement, ça ne semble pas fonctionner. Des pays ultra coercitifs, ils ont quand même des problèmes d'overdose. C'est juste qu'ils n'en parlent pas beaucoup, là, ils cachent ça, mais en réalité, je veux dire, c'est un problème qui est planétaire, plus occidental, parce qu'on est plus dans des sociétés libérales, naturellement. Donc, si tu mets en place une coercition qui est extrême, c'est sûr que tu vas avoir moins de cas, mais le degré de coercition qu'il faut que tu mettes sur la consommation pour la réduire, il est quand même très, très important. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pas nous qui allons régler ce problème-là aujourd'hui, mais quand même faire un peu d'enseignement. C'est quoi la naloxone? Ça peut vraiment sauver la vie si vous avez des gens, parce que des fois, là, le monde ne le dit pas, mais il peut avoir un conjoint, une conjointe qui est narcodépendante, qui va se procurer de la drogue dans la rue, un frère, une sœur, des amis, des connaissances proches. C'est gratuit, la naloxone. C'est un antinarcotique. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est que la façon que ça fonctionne, les narcotiques, ils vont se loger sur ce qu'on appelle des récepteurs mu dans le cerveau. Okay? Récepteurs mu, c'est quoi? C'est des récepteurs qui vont percevoir la douleur. Ils vont percevoir la douleur et ils vont également donner un sentiment d'euphorie lorsque tu les stimules. C'est-à-dire que la molécule de Dilaudid ou de fentanyl ou de morphine va aller se loger sur ce récepteur-là. En stimulant ce récepteur, ça va bloquer l'influx électrique de douleur. Donc, les patients vont avoir moins mal ou n'auront plus mal du tout. Son effet secondaire, c'est de causer de l'euphorie. Et c'est ça qui cause de la dépendance. Maintenant, sur le plan philosophique, on peut dire, est-ce que vraiment ça cause de l'euphorie ou c'est l'absence de douleur qui cause de l'euphorie, puis on aurait comme toujours un peu mal, puis ça fait en sorte qu'on se sent mieux. Puis c'est un petit peu philosophique, là. Oh, ouais. Est-ce que l'euphorie, c'est l'absence de douleur totale? Bon. Mais tout ça pour dire, c'est ça cause de la dépendance en raison du sentiment d'euphorie. Lorsque trop stimulé, trop saturé, les récepteurs mu, qu'est-ce que ça va faire? Ça fait en sorte que tu arrêtes de respirer. Okay? Tu arrêtes de respirer. Et lorsque tu arrêtes de respirer, ton cœur arrête de battre. Bon. La naloxone, c'est un antagoniste de ça. Ils vont déloger sur les récepteurs mus du cerveau les molécules de narcotiques, de morphine, de dilodide ou de fentanyl. Les kits que vous allez pouvoir avoir pour le commun des mortels, c'est soit injection intramusculaire, soit injection intranasale. Donc, très facile à donner. On pourrait apprendre à un macaque à le faire. Ça y prendrait peut-être une journée d'apprentissage. Donc, pour un être humain, c'est très facile à donner. À l'hôpital, on le donne le plus souvent intraveineux. Mais vous, il ne faut pas donner ça dans le intraveineux naturellement. Et puis, ça peut vraiment sauver la vie. Quelque chose d'important à savoir, c'est que oui, ça donne des effets secondaires aussi. Ça peut causer des arythmies, le Narcan. L'naloxone, plutôt, Narcan, c'est le nom commercial. Ça peut causer des arythmies. Ça peut faire en sorte que les patients aient énormément de douleurs parce que c'est des patients qui prenaient déjà des narcotiques. Là, vous allez complètement enlever les narcotiques du système. Temporairement, ils peuvent vraiment souffrir. Et sachez que la durée d'action, elle est moins longue que celle d'un narcotique. Donc, le classique, il faut absolument que le patient, une fois que vous avez donné ça, si jamais vous donnez ça à quelqu'un qui est inconscient, vous voyez et vous suspectez fortement là, qu'il a pris des opioïdes, vous lui donnez, puis il se réveille, il pète le feu. Le classique, c'est qu'il veut s'en aller chez lui, puis il va super bien. Le problème, s'il s'en va chez lui, puis il va aller se coucher, il va s'endormir, puis il ne se réveillera pas. Parce qu'une fois que la durée d'action de l'naloxone est terminée, tu as encore des narcotiques dans le système, puis ils vont resaturer tes récepteurs, et là, tu vas t'endormir, tu ne te réveilleras pas. Donc, il faut qu'il y ait à l'urgence, puis nous, on les met sous perfusion de naloxone pendant la nuit. Juste une petite anecdote comme ça, j'avais eu c'est un des individus que j'ai vu les plus déterminés de ma vie. Lui, il voulait aller il arrivait d'un rave. Il était dans un rave. Généralement, les narcotiques, c'est pas vraiment ce que les gens prennent dans des raves, c'est plus des psychostimulants, mais probablement qu'il a acheté de l'ecstasy ou quelque chose comme ça, puis c'était coupé avec des narcotiques.
Oh, je voulais dire, il a dû mélanger les pilules un peu.
Exactement, il a dû mélanger les pilules un peu. Puis ce qui est arrivé, c'est que il nous est arrivé à l'urgence, comateux, on savait qu'il arrivait d'un rave, donc en plein milieu de la nuit, donc à partir de ce moment-là, on lui a donné un peu de naloxone, il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il était d'une détermination totale à retourner à son rave. C'est un jeune de 22-23 ans, il avait beaucoup de réserves. Et là, il s'est relevé en dansant, puis en strimoussant, puis il s'en allait à son rave. Donc là, on lui a pas permis naturellement, on l'a mis sous perfusion. Et j'ai appris qu'un rave, ça se terminait très tard. Parce qu'il était rendu 11 heures le matin après sa perfusion, c'était rendu correct de le renvoyer chez lui, du 11 heures le matin, pour le libérer. Et il est retourné à son rave en dansant dans l'hôpital. Là, il dit où est-ce qu'il s'en va? Il dit je m'en retourne à mon rave.
Attendant qu'il est fini ton rave.
mais apparemment que ça se finit. C'est sûr que j'avais appris. Apparemment que ça se finit quand il est rendu 10 heures le matin. Mettons, ça a commencé, je ne sais pas moi, à 10 heures le soir, à 10 heures le lendemain matin. Apparemment que ce n'est pas fini encore. J'ai appris ça. Jamais allé dans un rave.
Mais ça dépend des raves. T'sais, le principe du rave, c'est que c'est vraiment si tu traverses la nuit au grand complet. T'sais. Puis que ça s'arrête quasiment pas. À un moment donné, c'est sûr que ça s'arrête. Là. Mais ça varie tout le temps. Là. C'est parce que comme des règles non écrites un peu. Là.
Ouais, j'imagine. Hein, j'imagine.
Il n'y a pas l'ordre professionnel des raves, malheureusement.
Oui, heureusement. Non, ça c'est sûr et certain. Écoute, et donc c'est pour ça que puis le message à envoyer, c'est de dire. Tu sais, acheter de la drogue sur le marché noir, c'est de la cochonnerie totale parce que tu sais vraiment pas qu'est-ce que t'as. Et apparemment, quand on parle un peu, parce que je connais quand même le milieu, dans ça, je fais quand même beaucoup de toxicomanie. Et quand on parle aux gens dans le milieu, moi, j'ai des patients qui sont toxicomanes, et il y aurait plus la même éthique, entre guillemets, qu'il y avait à l'époque lorsque de la drogue se vendait dans la rue. Apparemment que en ce moment, je n'ai pas de statistiques pour te démontrer ça, mais venant de gens qui travaillent, ben pas qui travaillent, mais je veux dire que de mes patients qui sont dans ce réseau-là, qui s'en procurent dans la rue, il n'y a plus beaucoup d'éthique aujourd'hui chez les pushers. C'est-à-dire, ça se coupe avec de la cochonnerie. Et c'est pour ça que tu as une genre de crise d'opioïdes en ce moment ultra dangereuse, parce qu'au moins à l'époque où les patients achetaient quelque chose, puis les consommateurs achetaient quelque chose, puis ils savaient exactement c'était quoi, les dangers d'overdose étaient beaucoup moindres. Tandis que là, tu achètes quelque chose, puis tu reçois une drogue qui est 25 fois plus puissante.
Ben c'est ça, parce que le marché est déréglé ou désespéré, parce que c'est un peu, c'est pas à dire, mais c'est un peu comme la loi du marché dans tout, là. Tu veux pas nécessairement tuer ton consommateur, tu veux qu'il revienne puis qu'il t'en achète encore. Fait que le but, c'est pas nécessairement de donner uniquement de la cochonnerie, là. C'est que, en tout cas, dans un monde... Dans le monde d'eux autres, mais pour dire qu'ils sont rendus de même, c'est capoté. Là. Ben, regarde, soyons-nous. Est-ce que nous sommes surpris, plus ou moins? Mais d'un autre côté, c'est encore là, c'est-tu. Est-ce que c'est un peu comme un genre d'effet de fil en aiguille ou de domino un peu? Là, c'est-tu la faute comme ceux qui produisent ça d'un pays, excusez-moi, mais d'un pays de cuir, puis c'est eux autres qui scrapent ça, puis après ça, c'est tout le reste, la distribution, puis les pocheurs se ramassent avec ça. C'est les pocheurs qui coupent ça.
C'est les pocheurs qui coupent. Okay. C'est vraiment les pocheurs qui coupent parce que ce que tu vas recevoir d'ailleurs, en réalité, c'est quelque chose qui est plus pur, puis après ça, plus tu descends dans la chaîne, plus ça se coupe. Maintenant, qui a synthétisé cette molécule 25 fois plus puissante? C'est sûr que c'est un laboratoire. Ce n'est pas un pusher. Là.
Un breaking bad.
C'est ça. Là. Ça, c'est quelqu'un. C'est des chimistes, là, on s'entend. C'est pas monsieur tout le monde sur le bord de la rue. Là. Ça, c'est sûr à 100%.
Donc, la preuve que d'avoir un diplôme universitaire n'avait pas nécessairement dit que vous êtes une bonne personne.
Absolument.
Parce que des études de chimie comme ça, c'est minimum université. Là, en tout cas, pour faire des trucs de même, à moins que tu aies vraiment un tripeux que ça depuis que
tu es petit. Ah non, il faut que tu aies fait du laboratoire beaucoup dans ta vie. Là.
Faut
que tu aies fait du laboratoire pour confectionner des molécules, là, pour faire des molécules de synthèse. Puis généralement, c'est pas juste un bac là, qui te donne cette
poche. Non, puis ça te prend l'équipement qui va avec faire ça aussi.
Ça te prend l'équipement, donc ça te prend les fonds sous-jacents. Et c'est là où, c'est à ce stade-là que la répression est importante, c'est-à-dire par rapport aux vendeurs, par rapport à ceux qui synthétisent ces molécules de façon illégale. C'est là où vient vraiment le rôle des corps policiers ici et du financement des corps policiers. Ça, c'est sûr et certain. D'aller, puis même les policiers sont vraiment pas enchantés de faire ça, là, d'aller passer des menottes à des patients qui souffrent de narcodépendance. Là. La solution, ça fonctionne pas, de un. Ça fonctionne clairement pas. Et quand tu regardes là, à l'international, vraiment, c'est pas ça qui fonctionne. D'un autre côté, il ne faut pas que tu ailles dans de la banalisation. C'est-à-dire, lorsque tu regardes, puis il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est les centres d'injection supervisés, lorsque tu peux avoir du personnel 24 heures sur 24 pour assurer que ceux qui ont des dépendances puissent avoir quelque chose qui n'est pas coupé avec une drogue 25 fois plus élevée. Mais il ne faut pas tomber dans ce qu'on appellerait de la SQDC des narcotiques. Là. Ça ne ferait aucun sens. Là, parce que là, tu tomberais dans de la banalisation. Par contre, lorsque tu as des centres d'injection supervisés. Le problème, c'est que s'il n'y a pas de sécurité puis s'ils ne sont pas ouverts 24 heures sur 24, ça fait pire que bien. C'est ce qu'on voit parce que s'il est ouvert juste 8 heures par jour, ben là, tu as les narcodépendants, tu as les consommateurs de drogue qui vont être autour sans sécurité et puis qui vont s'injecter en plein milieu de la rue. Puis là, tu pourris complètement l'ambiance d'un quartier. Donc, si... Tu décides d'avoir des centres d'injection supervisés, ça peut très bien fonctionner, ça peut sauver des vies, mais il faut que tu aies suffisamment de personnel, d'effectifs pour avoir de la sécurité, OK, pour faire en sorte que les gens ne peuvent pas sortir dans les rues s'injecter, c'est vraiment très discret à l'intérieur, et qu'ils soient ouverts 24 heures sur 24. Le problème qu'on a lorsqu'on en a ouvert à Montréal, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas assez de sécurité, et c'était ouvert des fois 8-12 heures par jour, puis le reste du temps, mais tu avais des gens qui... Je veux dire qu'il était dans les rues.
Qui
errait. Donc ça faisait pire.
J'en avais lu, je pense, une histoire dans Yann F1 il y a plusieurs mois, supposément qu'il y en avait. La ville avait autorisé justement un centre de piqûres quasiment presque à côté d'une garderie. Là,
ça fait aucun sens.
Ça fait pas de sens.
Que, ça peut pas être à côté des garderies, ça peut pas être à côté des écoles. On s'entend. Donc, quand on fait ça comme ça, si tu veux le faire comme il faut, tu as de la littérature internationale pour le faire comme il faut. Il faut que tu suives ça. Et il ne faut pas que ce soit de la banalisation. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça se transforme en SQDC des narcotiques ou en SQDC de l'héroïne. L'héroïne étant un narcotique. En passant, j'avais oublié de le mentionner tout à l'heure. L'héroïne est un narcotique. L'héroïne de mémoire, parce que naturellement, on ne prescrit pas d'héroïne à l'hôpital. L'héroïne, je crois qu'elle Elle est moins forte que le fentanyl, beaucoup. Je crois, de mémoire, comme ça, qu'elle est 20 fois plus forte que la morphine, de mémoire. Ouais.
Ah non, c'est spécial. Surtout en plus qu'on le sait, ben là, on parle de Montréal, mais je sais, par exemple, en Colombie-Britannique, à Vancouver, c'est terrible. Ils vivent avec ça depuis plus longtemps que nous, cette crise-là. On dirait que c'est quasiment l'épicentre canadien au niveau de la crise des narcotiques. En tout cas, vous allez dire toutes les grandes villes en ont, bien évidemment. Là. Mais disons qu'on va dire que Vancouver est quasiment un cas de figure. Là. C'est plate pour eux autres. Là, mais...
Vancouver, ils ont une crise énorme. Je suis pas allé souvent à Vancouver dans ma vie. Je suis allé une seule fois. Puis, c'était moins pire que ce que c'est en ce moment. Ça fait longtemps que je suis allé. Et oui, en effet, là, ils ont une crise, tu vois, il y a beaucoup, beaucoup d'itinérance. Et je me rappelle lorsque j'étais étudiant, puis j'avais fait un stage de microbiologie à l'Hôtel Dieu de Montréal, on avait beaucoup, en raison là, du secteur, on avait beaucoup de narcodépendants, puis microbiologie qui est la science médicale des infections. Les gens qui s'injectent ont tendance à faire beaucoup d'infections, entre autres des endocardites. C'est-à-dire, lorsque vous vous injectez, vous pouvez avoir un microbe qui monte au cœur et qui va infecter votre cœur, ce qu'on appelle une endocardite. Et c'est en microbiologie. Donc, j'avais eu la chance d'en voir quand même pas mal. Et je me rappelle, il y avait des patients qui nous disaient I'm leaving to the BC. Okay? Souvent, c'est parce que c'était plus intéressant pour eux d'aller au BC. En raison du fait que, je ne sais pas, c'était peut-être plus facile à se procurer les doses dans la rue, il y avait un climat qui était plus à la consommation de drogue de façon récréative.
Donc, c'est à Côte-Ouest, bien évidemment, tout le marché asiatique part de là, fait que c'est sûr.
Plus de facilité à se procurer les substances. Peut-être, est-ce qu'il y a moins de répression? Je ne le sais pas, par contre, est-ce qu'il y a moins de répression ou non? Mais oui, c'est bien connu, les narcodépendants et les consommateurs de drogue, pas seulement là, de la narcodépendance, cocaïne, héroïne, etc., ont tendance à graviter, à s'en aller vers le BC. Et ça c'est pas d'hier, là, ça date de...
Non, ça fait
ce que je te dis, ça doit faire 12-13 ans à peu près de ça, et où c'était bien connu comme concept. Quels sont les phénomènes qui font en sorte que le BC, c'est pire? Oui, comme tu dis, tu as la côte ouest, San Francisco, il y en a beaucoup aussi, donc tu as un marché qui est très important sur la côte ouest. Ça, c'est
ma théorie, c'est vraiment la gestion en général de la province, ville en général. T'sais, on voit qu'un peu comme la Californie, un peu comme... Le running gag aux États-Unis, c'est justement, ils disent souvent que les États ou les villes dirigées par des démocrates sont souvent là qu'il y a le plus de crimes ou qu'il y a moins il y a plus de laisser-aller pour ce qui est de libéralisation des drogues. On est plus en mode altruisme, mais des fois, ça fait l'effet contraire, en fait, là. Puis sachant que le BC, selon moi, autant que j'ai jamais été, fait que, c'est ma pure théorie avec ce que j'ai ce matin, là. Sachant que le BC, la Colombie-Britannique, est une province majoritairement gérée souvent par des gouvernements plus à gauche, disons plus tolérants envers les consommations de drogue, tendance à vouloir aider, mais ça n'a pas l'air du moins, en tout cas, le genre de law and order, ça n'a pas l'air d'être trop dans le carton très souvent, là. Fait que j'ai l'impression que peut-être c'est un genre de laisser-aller, un peu comme la Californie qui pourrait créer un genre d'endroit comme ça, là, avec des gouvernements NPD libéraux successifs là, pour ce qui est des villes aussi. Puis, en tout cas, je comprends que c'est multifactoriel. Mon but, c'est pas d'avoir
Non, exactement. C'est une des explications, ça, c'est sûr. Mais quand tu regardes un peu dans la littérature, c'est assez multifactoriel comme. Puis c'est pas juste, là, c'est sûr que les conservateurs tentent à dire on va mettre la peine de mort pour à peu près tout, là, même quelqu'un qui vole un rouge à lèvres, puis là, ça va régler tous les problèmes de la société. Je caricaturise naturellement. Et les progressistes veulent faire, d'une autre caricature, veulent faire du Canada une grosse SQDC pour à peu près n'importe quel drap. Je fais des caricatures, mais le phénomène est assez complexe, c'est multifactoriel. C'est sûr que si t'en fais la promotion, t'en fais presque la promotion, puis ça devient presque sexy de t'en aller dans un centre d'injection. C'est ultra problématique. Cependant, il y a une chose qui est assez importante, c'est que par rapport, la répression semble fonctionner pour la vente, OK? C'est-à-dire, et c'est sûr que là, si tu vends moins, si tu as moins d'accès aux substances via les pushers, aux substances dangereuses, tu vas avoir moins de consommation dangereuse. Par contre, la répression ne semble pas être très efficace pour, exemple du Portugal, par exemple, pour la consommation. Et maintenant, le Portugal, ça tergiverse quand même beaucoup. Lorsqu'ils avaient fait leur tentative de décriminalisation, ça avait très bien fonctionné pendant à peu près une décennie. Maintenant, ils commencent à avoir un rebound de ça parce qu'il y a trop de laisser-aller. Le Portugal, c'est très différent, par exemple. C'est pas comme au BC, c'est pas comme l'expérience du BC. Puis ça, il faut bien le mentionner, il y a une grosse différence. C'est qu'il est décriminalisé à la... c'est la consommation, c'est-à-dire, mettons que tu es pris avec une quantité non de vente, là, c'est-à-dire la quantité pour le trafic est criminalisée, puis les peines sont plus sévères qu'ici même. Par contre, lorsque tu es pris, lorsque les policiers te prennent avec une quantité qui est pour de la consommation, c'est décriminalisé en si et seulement si tu acceptes d'aller en ce qu'on appelle une cure de désintoxication et d'être prise en charge par une équipe multidisciplinaire. Donc, ils alternent comme entre les deux. Ils alternent entre la répression et mais également le fait de donner une chance aux gens. Tu comprends? Ils alternent. Ouais. Et pendant une décennie, ça a montré vraiment des effets très probants sur des coûts, faire sauver des coûts au système de santé et diminution de la mortalité par overdose. Le problème, c'est qu'après ça, là, il commence à avoir un peu trop de laisser-aller dans les politiques publiques et tu te rends compte que maintenant, il y a comme un rebound négatif. Donc, c'est super difficile d'avoir la bonne politique publique.
C'est ça, parce qu'il faut c'est quasiment comme un jeu d'équilibriste. Il faut tout le temps quasiment rééquilibrer ça. Puis c'est pas des fois, ça part, puis ça part d'un côté, puis là, il faut que tu ré... C'est un univers en mouvement constant.
C'est vraiment un juste équilibre à avoir. Et la façon de prendre les meilleures décisions possibles dans des cas comme ça, quand c'est très complexe, c'est d'être le moins politisé possible. Parce qu'on se rappelle, c'est quoi, je veux dire, la politique en démocratie, c'est de convaincre monsieur et madame tout le monde d'aller mettre un vote dans une urne. Et pour ça, si tu es conservateur, tu parles de répression beaucoup, si tu veux avoir des voix. Puis si tu es plutôt libéral, ben là, il faut que tu parles plus, je veux dire, de concession, de décriminalisation, de choses comme ça, libéral / NP10. Donc, c'est vraiment la juste balance. Puis malheureusement, les politiciens ne nous donnent souvent pas cette juste balance-là en raison de l'électoralisme.
Malheureusement. Écoute, Karim, merci beaucoup pour t'être libéré ce matin.
Ça
fait différent. Ça permet aussi aux auditeurs de déranger une fois de temps en temps. Je pense que ça fait du bien. Ils sont bien contents. Écoutez, j'espère que vous avez apprécié. Sinon, passez une excellente journée. On se revoit demain pour un autre épisode en toute liberté. Puis toi, moi, Karim, on se revoit la semaine prochaine. Donc, bonne journée tout le monde. Bon début de semaine.
Bonne semaine.